RFI, 8h à Paris et Kinshasa, 9h à Goma.
Andréane Mélard.
À la une de votre journal, Alban Le Prince, l'est de la République démocratique du Congo à Goma, où un calme précaire semble revenu.
Après d'intenses combats entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise, les derniers détails dans un instant. Aux États-Unis, les fonctionnaires ont jusqu'au 6 février pour décider. Donald Trump leur propose de démissionner en échange d'une indemnité. Objectif, réduire drastiquement les dépenses de l'État. Les précisions dans ce journal. Au sommaire, aussi votre dossier. Ce matin sur RFI, il est consacré à DeepSeek, le nouveau concurrent chinois de ChatGPT. Comment ça marche? Comment a-t-elle été développée? Et doit-on s'inquiéter? Élément de réponse à suivre. Et puis, grosse soirée foot ce soir. C'est la dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. 18 matchs au programme et notamment Stuttgart-PSG. Dernière chance pour les Parisiens de se qualifier pour les barrages.
Retour au calme à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Oui, après d'intenses combats opposant l'armée congolaise et les combattants du M23 soutenus par les forces rwandaises hier, la matinée a été émaillée par des tirs d'artillerie dans plusieurs quartiers de la ville et notamment autour de l'aéroport. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
La nuit a donc été plutôt calme dans la capitale provinciale.
Oui, les tirs se sont peu à peu estompés hier à partir de la mi-journée à Goma. Mais le bilan humain qui commence à se dessiner témoigne de la violence des combats des derniers jours. Plus de 100 morts et près d'un millier de blessés ont été conduits dans les hôpitaux de la ville, selon un décompte établi par l'agence France Presse. Hier, certains habitants ont osé s'aventurer de nouveau dans les rues de la ville où ils ont découvert de nombreux corps sans vie, alors que dans la matinée, des entrepôts contenant de l'aide alimentaire d'urgence ont été la cible de pillages.
Sur le plan diplomatique, les appels se multiplient pour tenter de trouver une sortie de crise.
Hier soir, l'Union africaine a appelé dans un communiqué au plein respect de l'intégrité territoriale de la RDC, mais sans mentionner ni condamner explicitement le Rwanda. Le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, qui a échangé au téléphone avec le nouveau secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Celui-ci a notamment exhorté à un cessez-le-feu immédiat dans la région, selon un communiqué du département d'État américain. Ce mercredi, le président kényan William Ruto a convoqué une réunion de la communauté de l'Afrique de l'Est, mais les services de la présidence congolaise ont déjà indiqué que Félix Tshisekedi n'y participerait pas. Le chef de l'État congolais devrait en revanche prendre la parole pour la première fois dans la soirée.
Merci Lisa Fabian. La situation dans l'Est du pays qui a fait l'objet hier d'une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, à qui la ministre congolaise des Affaires étrangères a demandé de désigner clairement le Rwanda comme responsable.
Aux États-Unis, un tribunal a suspendu jusqu'à lundi prochain la décision de Donald Trump de geler plusieurs centaines de milliards de dollars d'aide fédérale.
Principalement des subventions et des allocations. Résultat, l'assurance santé des Américains les plus pauvres était inaccessible durant plusieurs heures. Le paiement des hôpitaux et médecins a été bloqué. Autre proposition de Donald Trump, elle concerne les fonctionnaires. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, démissionner en échange d'une indemnité. Ils conserveraient néanmoins leur salaire et leurs avantages jusqu'à fin septembre, selon Elon Musk, qui pilote une mission consultative au gouvernement pour faire des économies. 5 à 10% des effectifs pourraient décider de partir. Les précisions à Washington de Guillaume Nodin.
Fork in the road, en français, croiser des chemins, c'est l'objet du courriel envoyé ce mardi. La fonction publique fédérale sous Donald Trump, on l'aime ou on la quitte, c'est en substance le message que la nouvelle administration américaine fait passer à ceux qui travaillent dans une partie de ses agences. Le choix proposé est assez simple, revenir en présentiel au bureau à 100% ou annoncer sa démission par courriel, ne pas revenir sur son lieu de travail et être payé 8 mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre prochain. Mais le message précise bien qu'accepter ces conditions ne garantit pas que son poste ne sera pas supprimé. Si cela arrivait, les employés fédéraux se verraient traités avec dignité, précise le message. La Maison-Blanche ne fait pas mystère de son souhait de déménager certaines agences et de réduire le nombre des employés. Les responsables cités par la presse américaine estiment que 5 à 10% des employés concernés vont saisir cette offre sans que l'on sache très bien comment ils arrivent à ce chiffre. Les employés fédéraux de certains secteurs comme l'armée, la sécurité nationale, l'immigration et la poste ne pourront pas profiter de l'offre qui est sur la table pour une semaine jusqu'au 6 février. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
RFI 10h04 à Damas, en Syrie, où de hauts responsables russes ont rencontré hier les nouvelles autorités.
Une première depuis la chute le mois dernier de Bachar al-Assad, ancien allié de Moscou, qui souhaite conserver ses bases militaires dans le pays, où les combats se poursuivent avec les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes. 18 personnes ont été tuées depuis le début de la semaine. Des Kurdes syriens, apatrides et inquiets après l'annonce lundi par les autorités d'un nouveau système d'attribution des passeports. Le reportage dans le camp de réfugiés de Kawergosk au Kurdistan irakien de Luc Alazo.
Il y a 10 ans, Mazloum quitte la Syrie en guerre pour l'Irak. Dans sa maison de briques, ce père de 4 filles exhume les quelques documents officiels qu'il possède, des papiers aux entêtes bleues des Nations Unies, mais aucune pièce officielle syrienne.
Nous sommes Syriens, mais le gouvernement refuse de le reconnaître.
En 1962, le régime baasiste retire leur nationalité à plus de 150 000 Kurdes. Une situation qui a rendu la vie de Mazloum impossible. Avant d'être un réfugié dans le pays voisin, il était un étranger dans le sien.
Après le diplôme, impossible de trouver du travail. Si tu possèdes une maison, tu ne peux pas l'enregistrer à ton nom. Mes propres enfants ne peuvent pas être enregistrés sous mon nom parce que je n'ai pas de livret de famille. Il y a tellement de choses dont on a été privé. Sans citoyenneté, tu ne peux rien faire.
Rien faire et encore moins voyager. Faute de registre, impossible d'estimer le nombre de personnes dans cette situation parmi les réfugiés kurdes syriens en Irak. Plusieurs centaines de familles, selon les associations. Et Mazloum doute que les nouvelles autorités prennent en charge leur situation.
Rien n'a changé en Syrie. Les administrations ne se sont pas remises à fonctionner, elles n'ont rien fait. Nous ne possédons pas la citoyenneté, il n'y a aucune preuve, aucun document officiel pour nous. Si nous rentrons, nous ne pourrons pas nous déplacer librement. Et si nous quittons les régions kurdes, nous pourrions être emprisonnés.
Des avocats lui réclament plusieurs milliers de dollars pour étudier son cas, inenvisageable pour Mazloum. Alors depuis que le régime est tombé, sa crainte, se retrouver seul dans le camp de réfugiés lorsque ses voisins rentreront en Syrie. Luc Alazo, Erbil, RFI.
Et hier, le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés a appelé la communauté internationale à soutenir la reconstruction de la Syrie. Objectif, faciliter le retour de millions de réfugiés et déplacés. Selon ces chiffres, il serait 1 400 000 à avoir déjà pu regagner leur domicile. Et à Gaza, au moins 376 000 Palestiniens sont rentrés depuis lundi dans le nord de l'enclave, selon les Nations Unies, région ravagée par les bombardements et où tout manque.
C'est l'une des plus importantes attaques depuis le début de la guerre en Ukraine. La Russie annonce ce matin avoir abattu cette nuit 104 drones ukrainiens au-dessus de 9 régions.
Une raffinerie du centre-ouest du pays a d'ailleurs pris feu. Offensive majeure à l'approche des 3 ans de la guerre. Et alors que Vladimir Poutine a imposé de nouvelles conditions hier pour mettre fin au conflit, des négociations, oui, mais sans Volodymyr Zelensky, son homologue ukrainien. Au même moment, le ministère des Affaires étrangères biélorusse organisait un voyage de presse à la frontière, à l'endroit même où les soldats russes étaient passés en février 2022. Anissa El Jabri, envoyée spéciale de RFI, était reportage.
Duty free fermé, presque fantôme, et dispositif d'alerte maximale, garde frontière avec fusil anti-drone, chien détecteur d'explosifs. Au poste frontière de Novaya Gouta, c'est pourtant désormais le calme plat et Anton Bikovsky, le porte-parole des gardes frontières de Biélorussie, se projette déjà dans l'après-guerre en Ukraine.
À l'époque où la frontière était ouverte, il passait en moyenne chaque jour 5000 personnes et 2000 véhicules en hiver, 17000 personnes et 8000 voitures en été. Nous sommes prêts à n'importe quel moment à organiser le passage des personnes et des véhicules dans les mêmes proportions.
Quelques pas sur cette route, davantage de sentinelles qui patrouillent, puis la consigne de s'arrêter au bout, visible à l'œil nu, des barbelés en hauteur, un panneau jaune et bleu. En lettres capitales, on lit « Ukraine ». C'est ici que passent les si discrets échanges de prisonniers, un des très rares sujets de dialogue direct entre Moscou et Kiev.
Lorsque le frère du milieu se dispute avec l'aîné, notre rôle en tant que petit frère et de faire tout notre possible pour remettre de l'ordre dans la famille. Je pense que les peuples russes, biélorusses et ukrainiens savent que tôt ou tard, tout se remettra en place. Toute guerre se termine par des négociations et la paix.
Une métaphore familiale en droite ligne avec ce que martèle le Kremlin sur des pays qu'il juge frères. Le dirigeant biélorusse, lui, a assuré dimanche ne pas chercher une place à la table d'éventuelles négociations de fin de conflit, mais il juge aussi que son pays doit être impliqué dans tout dialogue, toujours sur une ligne de crête diplomatique à l'ombre de Moscou. Anissa El Jabri, Novaya Gouta, RFI.
Bilan provisoire mais déjà bien lourd en Inde. Au moins 15 morts et 70 blessés après une bousculade à Prayagraj dans le nord du pays.
C'est là que se tient cette année l'immense pèlerinage hindou de la Kumbh Mela, considéré comme le plus grand rassemblement du monde. Des millions de fidèles s'y pressent pour prendre un bain dans les fleuves sacrés. C'est a priori en marge de l'un de ces bains que la bousculade a eu lieu. La faute à une mauvaise gestion des autorités, dénonce ce matin le chef de l'opposition indienne Narendra Modi. Le Premier ministre représente quant à lui ses plus sincères condoléances.
Panique générale à Wall Street. Les bourses asiatiques, elles, sont rassurées en cause l'apparition de DeepSeek.
Oui, le nouveau concurrent chinois de ChatGPT, développé avec seulement quelques millions de dollars. Lundi, l'agent conversationnel était déjà numéro 1 des téléchargements aux États-Unis. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour, bonjour à tous.
On va évidemment revenir sur ce vent de panique qui a soufflé sur les bourses mondiales. Mais avant cette question, comment ça fonctionne DeepSeek?
Eh bien, si vous avez déjà utilisé ChatGPT, ça y ressemble. Vous posez une question à ce robot, par exemple, donne-moi la recette du gâteau au chocolat ou explique-moi le théorème de Pythagore. Il vous répond par écrit. Et comme d'autres IA, il faut le savoir, DeepSeek a des biais et peut donner de fausses informations parfois.
Et elle n'échappe pas à la censure chinoise.
Voilà, si vous évoquez le massacre de la place Tiananmen, par exemple, Joker, l'appli commence une phrase puis l'efface et répond « Désolé, ce n'est pas dans mes cordes, parlons d'autre chose ». Au-delà de la censure, qui n'étonne pas vraiment, les réponses de DeepSeek sont globalement aussi bonnes que celles des principaux robots d'IA génératifs déjà disponibles.
Au point que l'application interroge sur le modèle américain basé sur des puces dernier cri et des milliards de dollars d'investissement.
Oui, car même si DeepSeek s'est notamment appuyé sur le modèle de Meta, un modèle ouvert pour construire le sien, la firme chinoise aurait dépensé seulement 6 millions de dollars pour sa dernière version, lancée la semaine dernière, 10 fois moins que Meta pour sa version la plus récente de son IA conversationnelle. Et je ne vous parle pas d'OpenAI qui a levé plusieurs dizaines de milliards de dollars ces dernières années pour ChatGPT. Deuxième élément qui fait douter le secteur, DeepSeek, qui a été créé il y a même pas 2 ans, assure avoir utilisé assez peu de puces électroniques ultra performantes, celles que les États-Unis interdisent à la Chine d'importer. Cela interroge sur l'efficacité des sanctions américaines, mais aussi sur l'idée selon laquelle ces puces seraient indispensables à l'IA. Gaël Varocco est directeur de recherche à l'INRIA.
Ce sera toujours utile d'avoir des puces performantes. Par contre, la question, c'est de savoir si elles n'étaient pas survalorisées et peut-être trop chères. Et ce que DeepSeek nous montre, c'est qu'on peut faire avec une puce un peu moins sophistiquée et avoir des très bons résultats.
Face à ça, Nvidia, leader américain des puces les plus performantes, a plongé de 17% lundi avant d'effacer une partie de ses pertes hier. Le vent de panique est passé aux États-Unis, mais la Chine, en tout cas, entend bien prendre et garder sa place sur le marché de l'IA.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Justine Fontaine.
On termine ce journal avec du foot. Alban est la dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions.
Et parmi les matchs au programme aujourd'hui, PSV Eindhoven, Liverpool, Barcelone, Atalanta, Bergame ou encore Lille, Feyenoord. Les Parisiens vont tenter de leur côté de réitérer l'exploit de la semaine dernière face à Manchester City. Ils affrontent ce soir les Allemands de Stuttgart. L'objectif est clair, se qualifier pour la suite de la compétition après des débuts difficiles. Et justement, gare aux excès de confiance, Cédric de Oliveira.
Mercredi dernier, dès le coup de sifflet final, l'euphorie était palpable pour le PSG et ses supporters. Après avoir vaincu Manchester City, ce match face à Stuttgart ne devrait être qu'une formalité.
Moi, je suis plutôt confiant. On a fait le plus dur. Il n'y aura pas de souci.
Ouais, Stuttgart, ils font des plutôt bons résultats. Et avec la performance face à City, victoire obligatoire et confiante.
En une soirée, en marquant 4 buts à l'armada anglaise, le PSG a effectivement balayé les doutes qui l'accompagnent souvent en Ligue des Champions. Mais pour Lucas Hernandez, ce festival ne servira à rien si son club retombe dans ses travers.
La semaine dernière, c'était un petit exploit. Mais si on arrive ici et qu'on perd le match et qu'on est éliminé, on va retenir que ça. Il va falloir se focaliser à être prêt. C'est le match aussi important ou plus important que celui de la semaine dernière.
Avec 10 points comme Stuttgart, Paris n'est pas à l'abri, d'autant que son adversaire est vice-champion d'Allemagne en titre et doit aussi faire un bon résultat pour se qualifier. Pour l'entraîneur parisien Luis Enrique, son équipe doit être entreprenante et ambitieuse.
On est tous conscients de ce qui est en jeu. On sait tous qu'on n'a encore rien fait. On doit assurer notre qualification et on doit gagner pour ça. L'objectif est le même à chaque fois, contre Gérone lors du premier match ou ici pour le dernier. On a la pression, mais on adore ça.
Queremos la pression.
S'il ne s'incline pas, il pourrait franchir l'écueil de ce premier tour pour la 13e saison consécutive. Cédric de Oliveira, Stuttgart, RFI.
Et Stuttgart-PSG, c'est à 20h, temps universel comme les 17 autres affiches de la soirée. Ce sera en direct sur RFI, soirée spéciale. On suivra également le choc Brest-Real Madrid. Rendez-vous à 19h40, temps universel.
Merci Alban Leprince. Ce journal à retrouver comme tous les autres sur notre application RFI Pure Radio. 8h presque 15 ici à Paris, l'heure de la revue de presse internationale avec Frédéric Couteau. À la une, Frédéric, comment reconstruire Gaza ?
Vision dantesque, soupire Lorient Le Jour à Beyrouth, que celle de cette compacte et interminable colonne d'hommes, de femmes et d'enfants cheminant lundi vers le nord de Gaza le long d'un rivage de sable et portant ou traînant leurs misérables baluchons, gommant l'espace d'une exaltante longue marche, leur immense détresse, jubilant à la seule perspective de regagner enfin leur chez soi, lequel n'est plus pourtant qu'un amas de décombres. Leur poignant enthousiasme répondait fort à propos, avec autant de dignité que d'éloquence, à l'odieux délire de Donald Trump, s'insurge le quotidien libanais, qui n'en finit pas d'appeler à nettoyer ce territoire à problème, à reloger ses habitants en Égypte ou en Jordanie, ce qui, pour ce fantasque magnat de l'immobilier, réglerait la question.
D'après les Nations Unies, souligne Haaretz, à Tel Aviv, environ 1 800 000 habitants de Gaza sont désormais à la rue.
Les priorités immédiates sont de fournir des abris, d'organiser la distribution de l'aide humanitaire qui a commencé à affluer conformément à l'accord de cessez-le-feu et de mettre en place des infrastructures temporaires pour la distribution d'eau et d'électricité. Les dommages directs causés aux infrastructures s'élèvent à 18 milliards et demi de dollars, le déblaiement des décombres étant estimé à lui seul à plus d'un milliard. Le coût total de la reconstruction de la bande de Gaza est estimé à 40 milliards et pourrait s'étendre jusqu'en 2040, voire même au-delà. Une reconstruction, poursuit Haaretz, qui préoccupe l'Égypte et d'autres nations arabes qui devraient payer la facture. L'Égypte, comme la Jordanie, qui a précisé dimanche qu'elle rejetait fermement la proposition du président Trump d'accueillir les réfugiés gazaouis sur son territoire à court ou à long terme pour permettre la reconstruction de l'enclave. En tout cas, pointe encore le quotidien israélien. Pour les entreprises égyptiennes, grandes sociétés de construction, usines de ciment, de fer, de verre, de bois, entrepreneurs en terrassement ou en équipement lourd, Gaza représente une terre d'opportunité qui pourrait bien les sauver d'une longue période de récession et de chômage. Ils attendent avec impatience l'ordre d'entrée à Gaza, à condition que quelqu'un finance les travaux et garantisse les paiements.
Alors justement, Frédéric, qui va payer ?
Eh bien, d'après le Washington Post, les monarchies arabes pourraient financer la reconstruction de Gaza, mais elles veulent aussi s'assurer que la période d'après-guerre comprendra une ouverture vers la création d'un État palestinien. Notre position a toujours été claire. La solution des deux États est le seul moyen de résoudre la question palestinienne, a déclaré hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar.
Et quand devrait débuter la reconstruction ?
Là encore, réponse du Washington Post. Le cessez-le-feu initial qui a débuté le 19 janvier est censé durer 42 jours, après quoi le Hamas devrait libérer les otages restants et Israël devrait retirer l'ensemble de ses troupes de Gaza. Ce n'est qu'à ce moment-là que la reconstruction pourra commencer, ainsi que les négociations sur l'avenir politique de Gaza.
Reste que le processus de paix est bien fragile. Hein.
Oui, c'est ce que révèle le Guardian à Londres. De nouvelles menaces se profilent à l'horizon, écrit-il. D'abord, Israël et les Nations Unies sont en conflit sur l'avenir de l'UNRWA, l'agence humanitaire pour les Palestiniens. Une loi israélienne mettant fin à toute coopération avec l'agence doit entrer en vigueur demain jeudi, au moment même où l'aide humanitaire dont Gaza a désespérément besoin arrive enfin. Et puis, autre problème, pointe le Guardian, qui concerne cette fois la pérennité de l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Passer à une deuxième phase au cours de laquelle Israël est censé se retirer complètement et le Hamas doit désarmer, passer à cette deuxième phase sera beaucoup plus difficile. Enfin, pour couronner le tout, souligne encore le quotidien britannique, il y a ces déclarations de Donald Trump à l'emporte-pièce de nettoyer tout ça, entre guillemets, des propos répugnants, s'insurge le Guardian, qui sonne comme une douce musique aux oreilles de l'extrême droite israélienne.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale sur RFI. Elle est à réécouter sur notre application et sur toutes les plateformes d'écoute. Et j'ajoute qu'à la une de notre site internet RFI.fr ce matin, notre live dédié à la situation en direct à Goma, dans l'est de la RDC. RDC de point calme précaire à Goma. C'est à la une de notre site internet www.rfi.fr. Non au Mercosur, voilà ce qui va probablement résonner dans les rangs de l'Assemblée nationale française cet après-midi. À l'initiative de la gauche, le Parti socialiste, un projet de résolution visant à refuser l'accord du Mercosur va être étudié. Ce traité de libre-échange négocié depuis 25 ans entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, donc Argentine, Brésil, Paraguay ou encore Uruguay, projet qui divise profondément les 27, la France inquiète pour sa filière agricole et contre d'ailleurs, comme la Pologne. D'autres, comme l'Italie, sont plus réservés et il y a ceux qui sont clairement favorables, comme l'Allemagne. Et de l'autre côté de l'Atlantique, l'Argentine. Théo Conscience est notre correspondant à Buenos Aires. Reportage.
8h du matin, la cloche sonne le début d'une nouvelle vente aux enchères au marché au bétail de Cañuelas. Perché sur une passerelle au-dessus des enclos de bovins, un homme décrit les caractéristiques des bêtes dans un mégaphone pour les vendre aux plus offrants. Nous sommes dans le plus grand marché au bétail d'Argentine. Ce jour-là, plus de 9000 vaches sont mises en vente pour le marché domestique, mais également international. Oscar Subarroca est négociant en bétail.
Nous vendons aux exportateurs des vaches de caractéristiques Hilton. Ce sont des bêtes de première qualité, très recherchées, et qui peuvent être vendues à l'Union européenne.
S'ils restent les premiers consommateurs de viande rouge au monde avec 42 kilos par an et par personne, les Argentins n'ont quasiment jamais consommé aussi peu de viande de bœuf que l'an passé, sur fond de crise économique et de pouvoir d'achat en berne. Dans ce contexte, le possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui prévoit des baisses de taxes et l'ouverture de nouveaux quotas d'importation, pourrait réactiver la filière, selon Oscar Subarroca.
Notre cheptel national a diminué. Nous avons 51 millions de têtes de bétail contre 60 millions il y a encore quelques années. Cet accord pourrait inciter les éleveurs à recomposer leur cheptel afin de pouvoir exporter.
En attendant, certains éleveurs se préparent déjà pour le marché européen. C'est le cas de Carlos Montbalet, qui a un feedlot, un parc d'engraissement de quelques 100 000 bêtes non loin de Cañuelas.
Nos vaches sont très prisées sur le marché. Leur viande se retrouve sur les tables des meilleurs restaurants du pays. L'objectif final, c'est d'obtenir l'autorisation pour exporter.
Pour obtenir cette autorisation d'exporter, les producteurs doivent respecter certaines conditions. En Argentine, l'utilisation d'hormones de croissance est interdite depuis 2004 pour les vaches dont la viande est destinée au marché européen. Le poids et l'alimentation des bêtes est également régulé. Mais selon Carlos Montbalet, se conformer à ces normes n'est pas un problème.
Il n'y a pas besoin de faire de grands investissements. Il faut avoir une très bonne traçabilité et un régime sanitaire et alimentaire strict.
La question de la traçabilité est centrale du point de vue sanitaire, mais également en raison du règlement européen sur la déforestation. Dans le nord de l'Argentine, l'avancée de la frontière agro-industrielle a fait disparaître plus de 100 000 hectares de forêt depuis le début de l'année, selon Greenpeace. Théo Conscience, de retour de Cañuelas, RFI.
RFI, il est 8h22 à Paris, 9h22 à Goma. À Goma, en République démocratique du Congo, où un calme précaire règne ce matin. On le disait, la capitale provinciale du Nord Kivu, a théâtre de violents affrontements ces derniers jours entre le M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise, aidée de ses alliés. Nos confrères de l'AFP, après compilation de données hospitalières, évoquent une centaine de morts et au moins un millier de blessés dans ces violents affrontements. Bilan probablement largement sous-estimé. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Londres en direct avec nous ce matin. Alors Emeline, face à cette violence, à ce bilan humain notamment, plusieurs pays font part de leur inquiétude depuis quelques jours concernant donc la situation en RDC. Le Royaume-Uni notamment, Emeline, condamne les violences.
Oui, par la voix de son ambassadeur au Conseil de sécurité et par celle de son ministre des Affaires étrangères. La diplomatie britannique a rendu hommage aux casques bleus de la MONUSCO qui ont été tués, mais surtout elle a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'échelle et la rapidité de l'avancée des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. L'ambassadeur à l'ONU, James Kariuki, a dénoncé l'obstruction par le Rwanda de l'action humanitaire des Nations Unies. Et ce dimanche, le ministre David Lamy a téléphoné directement au président rwandais Paul Kagame pour l'appeler à la désescalade nécessaire au retour de Kigali et de Kinshasa à la table des négociations.
Et pourtant, Emeline, Londres est un allié du Rwanda.
Oui, jusqu'à l'été dernier, le Royaume-Uni était même l'un des plus fervents soutiens occidentaux du Rwanda. Un appui diplomatique, financier, culturel, qui reposait sur le Commonwealth déjà, que le Rwanda a rejoint en 2009, et plus récemment sur un partenariat entre les deux pays, un partenariat migratoire de délocalisation du système d'asile britannique au Rwanda. Ce partenariat ne s'est finalement jamais concrétisé en raison de recours judiciaires. Ses opposants pointaient les manquements en matière de droits humains au Rwanda et de traitement des minorités. Donc pendant plusieurs années, pour contrer ces inquiétudes, Londres a défendu Kigali, y compris sur la scène internationale, quitte parfois à se taire sur certains aspects, notamment le soutien rwandais au M23. Le partenariat migratoire, il a été enterré avec l'arrivée du nouveau gouvernement travailliste en juillet dernier. Mais cette prise de parole dimanche marque tout de même un net tournant dans la relation rwando-britannique.
Londres qui a exprimé son inquiétude, qui a appelé le Rwanda à la désescalade, on le disait. Comment s'explique ce revirement ?
C'est compliqué à établir précisément. Ça faisait un moment que des représentants de la société civile, des associatifs, des chercheurs appelaient le gouvernement à user de son influence auprès du Rwanda pour calmer l'action du M23 dans l'est de la RDC. C'était compliqué tant que le partenariat migratoire était en place avec des accords financiers. Mais maintenant, Londres ne doit plus rien au Rwanda et le Rwanda a éteint tout espoir de rembourser Londres. Autre élément de réponse, la stratégie africaine du gouvernement travailliste. Le Royaume-Uni espère regagner en influence sur le continent, une influence érodée par la présence chinoise. Si le Royaume-Uni parvenait à ramener tout le monde autour de la table des négociations, ce serait une victoire diplomatique non négligeable, mais encore, il faut le dire, très hypothétique.
Merci Emeline Vin, correspondante de RFI à Londres, en direct avec nous ce matin. Et j'ajoute que la situation en RDC, on y revient dans le prochain journal. À présent, c'est notre question d'environnement sur RFI. Pourquoi faut-il préserver davantage les vieux animaux ? Une étude parue récemment dans la revue Science apporte un regard nouveau sur le rôle crucial de ces vieux animaux pour la biodiversité. Pour les auteurs de cette étude, cette catégorie d'âge est menacée et a besoin de protection particulière. Igor Strauss, que doit-on comprendre que les vieux animaux sont plus menacés que les jeunes ?
Oui, grâce à la compilation d'innombrables travaux de recherche, les scientifiques remarquent que les classes d'âge les plus élevées d'un très grand nombre de populations animales ont décliné ou été éliminées sous l'effet des activités humaines. Et ces animaux âgés sont souvent les plus gros. C'est vrai chez les poissons, qui grandissent toute leur vie, leur taille a diminué en raison de la surpêche, mais c'est également vrai pour les animaux terrestres. Les plus gros et donc les plus âgés sont chassés en priorité pour se nourrir ou pour le prestige. Les amateurs de chasse au trophée, par exemple, privilégient les animaux imposants pour faire une belle photo. Ceux qui chassent pour se nourrir également, tuer un bison ou un éléphant permet de se nourrir pendant des semaines et demande moins d'efforts par calorie que de courser un lapin. C'était déjà le cas du temps des chasseurs-cueilleurs, rappelez-vous, en témoignent les peintures rupestres dans les grottes qui représentent toujours des grands animaux, chevaux, mammouths, mais jamais des petits, Andréane.
Alors avec cette étude, les chercheurs remettent en cause la notion de sénescence en biologie. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, la sénescence, c'est un processus physiologique de dégradation des cellules. Pour schématiser, on pensait que plus un animal vieillit, plus ses cellules se dégradent. Or, les chercheurs ont montré que sénescence et vieillissement ne sont pas synonymes. Chez les poissons, par exemple, il y a bien vieillissement, mais peu de sénescence. Leur fertilité accroît même avec leur poids et donc avec leur âge, puisqu'ils grossissent toute leur vie. En pêchant principalement des gros poissons, on se prive des animaux les plus fertiles et donc de tout un patrimoine génétique important. Et aujourd'hui, les poissons sont affaiblis sur le plan reproducteur.
Cette étude, Igor, montre que même chez les animaux qui connaissent une réelle sénescence, les vieux individus jouent un rôle essentiel pour la survie de l'espèce.
Oui, et les chercheurs parlent même de sagesse de ces vieux individus. Une des scientifiques étudie par exemple les éléphants dans un parc kényan. Elle a montré que le leadership dans un groupe d'éléphants est toujours assuré par de vieilles matriarches. Elles ont des connaissances et une expérience sociale qui profitent à l'ensemble du groupe. Elles connaissent leur territoire, les points d'eau, les dangers. Elles enseignent aux petits à se se protéger des prédateurs, elles parviennent à régler les conflits entre éléphants. Bref, elles ont un rôle fondamental. Et puis, grâce à elles, eh bien, les éléphants parcourent de grandes distances puisqu'elles connaissent parfaitement leur territoire. Et ce faisant, eh bien, elles participent à la dissémination des graines sur de grandes distances et permettent donc la régénération de la végétation. Pour tous ces services rendus, les chercheurs estiment que la longévité des animaux devrait être une composante de la biodiversité qu'il faut absolument défendre. Nos vieux animaux sont des sages qui nous rendent des services. Regardons-les différemment.
Igor Strauss pour la question d'environnement sur RFI. Merci à vous.
My French Film Festival, le premier festival de cinéma francophone entièrement en ligne, revient du 17 janvier au 17 février. Retrouvez le meilleur du jeune cinéma francophone à travers une sélection de 20 films sous-titrés en 8 langues, disponibles dans le monde entier et gratuits dans de nombreux pays. Rendez-vous sur myfrenchfilmfestival.com pour découvrir les films et de nombreux contenus exclusifs. My French Film Festival, du 17 janvier au 17 février, en partenariat avec France Média Monde.
Le débat du jour, Romain Ouzoui.
Géopolitique, environnement, société, économie, sport, nous abordons tous les sujets, nous confrontons tous les points de vue.
Non mais je m'inscris en faux sur tout ce qui est dit à propos...
C'est pas vrai,
ah, mais si, c'est un mensonge.
Ah si, il y avait le logo. Ça paraît compliqué là pour le moment, je crois qu'il faut plutôt savoir ce qu'il n'a pas fait.
Les plus grands spécialistes s'expriment sur ce qui fait l'actualité.